On va prendre le deuxième livre des Rois au chapitre 6 et on va parler d'un homme qui justement à un moment a cru que tout était fini, tout était perdu pour lui. Il avait réellement perdu l'essentiel, il ne voyait pas d'issue, il ne voyait pas comment reprendre. C'était totalement impossible qu'il reprenne, qu'il retrouve ce qu'il avait perdu et le don spirituel sur cette réalité que Jésus est la résurrection et la vie. Alors ce sera avec d'autres mots, mais le principe est le même. Le don m'a aussi fait du bien et conforté dans l'idée qu'il faut que je vous parle de cet homme. De Rois, chapitre 6, verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Élisée répondit, oui, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur! Il était emprunté. Élisée lui dit, « Où est-il tombé ?» Et le serviteur lui montra la place où le fer était tombé. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le !» Et il C'est le serviteur. Le serviteur avança la main et il le prit. Amen. Voilà le texte qui est revenu sur mon cœur et qui m'a travaillé pendant ce temps de louange, de prière. Je voudrais parler ce matin à bon nombre de frères et sœurs, d'amis dans cette salle, dans cette église, et bien des visiteurs aussi, qui peut-être se trouve un petit peu dans le désarroi de ce serviteur qui, en réalité, quand on y réfléchit bien, a perdu l'essentiel. Parce que pour un bûcheron, avoir perdu le fer de hache, on peut dire qu'il a vraiment perdu l'essentiel. Et c'est une image de cet essentiel que nous avons dans notre vie, dans notre communion avec Dieu, Jésus lui-même. Ce serviteur, il a à cœur l'œuvre de Dieu. Et en réalité, il est actif, il est utile, il a une bonne vision, il a une bonne conception des choses, visiblement il a bon cœur. Il ne se contente pas de ce qu'il a, visiblement ce n'est pas le genre à vouloir vivre petit, étriqué, à vivre sur les mêmes acquis. Il dit non, Élisée, regarde, le lieu où nous sommes est beaucoup trop étroit pour nous, il nous faut plus. Et qu'est-ce qu'il fait de mal? En voulant plus, en voulant vivre mieux, en voulant vivre plus. Et il a une bonne vision, il ne veut pas rester sur des acquis, ce n'est pas le genre à vivre une vie étriquée. Ce n'est pas le genre, comme on dit, à se reposer sur ses lauriers. Il veut aller plus loin. Et ça, c'est entièrement louable. Il a le désir d'élargir les espaces, des espaces personnels pour nous, intérieurs, des espaces de cœur. Il veut entrer dans de nouvelles dimensions. Il veut servir, il veut être utile. Il a l'approbation de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, les prophètes parlent de la part de Dieu. Il faut consulter le prophète et le prophète parle de la part de Dieu. Il a l'approbation de Dieu. Élisée lui dit, allez-y. Et quand il lui dit, oui, mais Seigneur, moi je ne ferai pas ça si tu n'es pas avec moi. Et Élisée lui dit, ben oui, ok, j'irai, il n'y a pas de problème. Donc, il a l'approbation de Dieu et il se met à l'œuvre, il a de la bonne volonté, c'est un bon serviteur. Mais pendant qu'il est à l'œuvre, ce n'est pas un mauvais serviteur, ce n'est pas un serviteur paresseux, ce n'est pas quelqu'un qui n'en a rien à faire, ce n'est pas quelqu'un qui veut vivre dans l'étriqué, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans les reliques du passé. Non, il veut mieux, il veut plus, il veut aller de l'avant. Il a une super attitude de cœur. Mais pendant qu'il est à l'œuvre, malgré toutes les bonnes dispositions qu'il a et que peut-être vous avez ou vous aviez pendant un temps, il a perdu le fer de hache. Pendant qu'il était à l'œuvre. Il n'a pas été l'enterrer. Il l'a perdu pendant qu'il était à l'œuvre. Et ça, c'est le comble, parce que, comme je vous l'ai dit, ben, je crois que pour un bûcheron, le fer de hache, c'est l'essentiel. Bon, on a besoin du manche aussi, parce que sinon, ce n'est pas pratique. Il faut les deux. Mais le fer de hache, c'est l'essentiel, parce que c'est le fer, c'est l'efficacité du fer qui va faire que le fer va pouvoir pénétrer le bois et va pouvoir accomplir son œuvre. Le comble pour un bûcheron, c'est qu'il n'y ait pas de fer de hache. Le comble pour quelqu'un qui aime l'automobile, je ne sais pas, prenez, mais je vais peut-être plus parler à mes frères, vous aimez Audi, Mercedes, Jaguar, je ne sais pas, prenez la plus belle des voitures. Je vous offre la plus belle des voitures, celle votre préférée. La carrosserie, elle est nickel, elle est reluisante. Je vous donne même la clé. Mais quand vous ouvrez le capot, il n'y a pas de moteur. Ben, c'est un petit peu l'essentiel, même si on a besoin des roues, on a besoin du châssis, on a besoin du reste. Ben, c'est exactement ça. Et du coup, cet homme, comment est-ce qu'il a pu en arriver là, alors qu'il semblait avoir une si bonne disposition à la base ? Ben, il faut bien comprendre, bien aimé, que l'essentiel avec Dieu, on ne le perd pas du jour au lendemain. On ne le perd pas comme ça. C'est très souvent un processus. Un processus lié à des négligences personnelles, lié à des distractions. C'est souvent un processus qui est lié à notre inattention, à une série de négligences, à une série de relâchement où on va laisser des liens entre Dieu et nous se distendre progressivement. C'est souvent un processus. Et le fer de hache ne s'est pas désolidarisé du manche comme ça du premier coup. C'est pas possible. C'est l'usure. C'est le manque d'entretien qui a fait que... On raconte souvent cette anecdote, peut-être l'avez-vous déjà entendue, je l'apprécie beaucoup. Un jour, deux bûcherons sont là en train de travailler, de vrai, dans une forêt, et puis il y en a un qui est là, qui est jeune, baraqué, un peu prétentieux, il a tout ce qu'il faut, il a le manuel, il connaît tous les trucs, les machins, etc. Puis en plus, il a la force, la jeunesse, il a la fougue, il a énormément d'énergie à revendre. Et puis, son compagnon est un peu beaucoup plus âgé et ne paye pas de mine du tout. Alors, le jeune, se sentant un petit peu bien, un peu fier, quoi, il le défie. Il dit, tiens, tu sais quoi, on va se lancer un petit défi, on va se faire un petit concours. On aime bien se titiller entre nous. Hein. C'est typiquement masculin, ça. Hein. On va se voir un petit peu qui va abattre le plus de troncs. On y va. Et le vieux le regarde, lui dit « Ok, on y va. » Et là, le jeune, il commence à y aller. Et puis, bah, il a tout ce qu'il... Puis, de temps en temps, il se retourne comme ça, puis il regarde un petit peu plus loin pour voir ce que l'autre fait, puis s'il en abat autant. Puis, à sa grande surprise, il voit que l'autre, qui est un petit peu plus âgé, très souvent, il le voit, il a le dos tourné. Puis, il le voit, il est assis comme ça. Le jeune, il se dit, le vieux, je vais en faire qu'une bouchée, pardonnez-moi l'expression. Et puis une fois que le temps est imparti, qu'on commence à regarder, à compter qui a fait quoi, quelle n'est pas la surprise de ce jeune bûcheron extrêmement baraqué, qui s'aperçoit que le vieux, alors qu'il avait l'air de pas faire grand-chose, en avait abattu plus que lui. Il dit, mais c'est pas possible. Regarde physiquement comment t'es à côté de moi. Regarde l'énergie que j'ai dépensée. Regarde l'énergie que j'ai déployée. Comment ça se fait que t'as réussi, alors que t'étais toujours ainsi, à te reposer? Il y a tellement de moments où tu faisais rien. Tu ne faisais rien. Et comment t'as fait pour... Et le vieux bûcheron lui dit, mais je ne faisais pas rien. J'étais en train d'aiguiser mon fer de hache. Je cours, je gère, moi je sais, moi je vais y arriver, moi. Tu sais à partir de quel moment, mon frère, mon bien-aimé, pardon, c'est pas méchant, tu sais à partir de quel moment les vrais problèmes ont commencé dans ta famille avec tes enfants ? C'est pas un reproche. C'est à partir du moment où tu as cessé d'aiguiser ton fer de hache dans la présence de Dieu. les problèmes bien-aimés dans la vie spirituelle, les problèmes dans les couples, les problèmes dans les familles, les problèmes dans les églises, viennent toujours, commencent toujours insidieusement, doucement, de façon quasi invisible au début, lentement, mais sûrement, viennent toujours à partir du moment où tu as cessé, où tu as ralenti, où tu as commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aiguiser ton fer de hache dans la présence de Dieu. Et c'est toujours le même schéma, frères et sœurs. On peut compter les troncs, on peut essayer on est déçu parce qu'on s'aperçoit qu'on a déployé tellement d'énergie pour essayer de faire bien, de gérer de ceci, de cela. Je connais, pardon, des pasteurs aussi, parce qu'avant d'être pasteur, on est disciples, qui sont prêts à faire des journées de 48 heures si nécessaire. Les églises ne marchent pas mieux. On se fatigue, on dépense une énergie considérable. Et on est tellement, tellement, tellement occupé, occupé, suroccupé, à vouloir, on est tellement là, pardon, vous connaissez l'expression, on est tellement la tête dans le guidon, qu'au final, ben c'est tellement facile, en ayant vu tel besoin, et il faut ça, et il faut ça, et il faut ça, et je suis toujours, toujours accaparé par ci, par ça, par lui, par elle, par machin, que tranquillement, lentement, lentement, mais sûrement, je finis par perdre l'essentiel et tellement moins d'efficacité. Pourquoi le témoignage des chrétiens auprès des inconvertis, pardon, est parfois si laborieux, pour au final devenir parfois presque inexistant, pour avoir tellement de mots, pour avoir si peu de résultats? Comment c'est possible? Les problèmes commencent toujours à partir du moment où on a cessé d'aiguiser son fer de hache dans la présence de Dieu. Et c'est très facile, bien aimé, de perdre de vue l'essentiel. C'est tellement simple. Vous n'avez rien à faire pour vous laisser distraire. Vous n'avez rien à faire pour tomber dans la routine. L'essentiel de tout serviteur, l'efficacité de tout serviteur, de tout disciple, de tout conducteur de chant, musicien, moniteur d'école du dimanche, disciple, papa, maman, pasteur, ancien, peu importe, CA, qui vous voulez. L'efficacité de ma vie, de ce que je suis, de mon service, l'efficacité, c'est pas moi. Oui, il faut un manche, et le manche, c'est moi. Alors maintenant, comme vous me faites toutes des têtes de sphinx, là, mettez un petit coup de gentil à votre voisin, et puis dites-lui, n'oublie pas, le pasteur a dit que tu étais un manche. C'est nous le manche, mais le faire, la présence de Dieu a décidé que oui, il avait besoin d'un manche, il a besoin de moi. Dans le buisson ardent, oui, il y avait ce feu extraordinaire qui ne s'éteignait pas, mais il fallait absolument un buisson, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et c'est essentiel pour le manche que je suis, c'est que le fer, parce que ce n'est pas moi qui fais le boulot. Tu es peut-être, pardon, comme maman, comme papa, comme frère, comme sœur, comme serviteur, comme collègue de travail, comme témoin de Jésus, pardonne-moi, il n'y a aucun reproche parce que ça m'arrive, ça arrive à tous. Je disais à un frère juste avant le culte, je disais, mes frères, sois patient avec telle personne dont tu me parles, parce que c'est obligé, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, ça nous arrive à tous, tôt ou tard, d'avoir des moments de flottement, on ne fait pas attention, on n'est pas conscient, et on perd de vue l'essentiel. Et cet essentiel, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Et dans la vie spirituelle, je ne parle pas seulement dans le service, hein, dans l'Église, mais dans la vie spirituelle en général, les problèmes commencent quand on cesse d'aiguiser notre fer de hache dans la présence de Dieu. Et ça, bien aimé, ce n'est pas un reproche. Ça lui est arrivé. Ça arrive à tout le monde, tôt ou tard, à un moment ou à un autre. Et ce qui se passe, c'est que le fer, pour être un peu plus technique, c'est que le fer, lorsqu'il est moins aiguisé, il va s'émousser. S'émousser, c'est-à-dire qu'il va perdre de son tranchant, de son efficacité. Et en réalité, au fur et à mesure qu'on tape, il va y avoir de plus en plus, non pas de, ça ne va pas pénétrer le bois comme ça devrait, c'est qu'il va y avoir des chocs. Ça va rebondir et le bois va être abîmé. Et comme les chocs sont de plus en plus durs, le fer et le manche finissent en réalité par se désolidariser parce que le fer ne peut plus pénétrer le bois comme il le devrait. Et le manche et le fer finissent par se désolidarisé. Ça a duré combien de temps, son histoire, je ne sais pas, mais ça ne s'est pas fait en une seconde. Et il y a eu un processus. Et puis un jour, c'était le coup de trop. Un jour, c'était la foi de trop où tu n'as pas été dans la présence de Dieu. C'était la foi de trop. Et là, pouf, et un jour, tu te réveilles. Tu te dis, mais en fait, j'en suis où réellement? Qu'est-ce que je fais avec ce manche dans la main? Elle est où dans mon cœur? Dans ta vie? Elle est où dans l'église? Elle est où dans ton foyer, mon frère, ma sœur? Elle est où cette présence de Dieu qui fait toute la différence? Elle est où cette présence de Dieu? Elle est où cette onction, cette fraîcheur, cette joie, cet élan, cette passion? Elle est où cette efficacité qui fait que tu n'as pas besoin de multiplier des paroles et des paroles et des paroles et d'être toujours sur le dos de ta fille ou de je ne sais pas qui? Tu n'as pas besoin de toujours. Ça fatigue tout le monde. Ça s'appelle des coups de manche sans le faire. Mais quand le fer de hache est aiguisé dans la présence de Dieu, une parole par la présence de Dieu, parce que tu as été aiguisé dans l'intimité, une présence peut pénétrer le bois. Et quand il manque cette dimension d'onction, de fraîcheur, d'efficacité, quand il ne reste que le manche, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que toi, que moi, avec mon inefficacité, là, il y a différentes tentations pour le serviteur, pour toi, pour moi. Mais avant de considérer ce qu'il a fait, je veux juste aussi considérer ce qu'il n'a pas fait. C'est instructif. Aussi, des fois, ce que la Bible ne dit pas, elle le dit ailleurs. Ce que certains n'ont pas fait. Des tentations. Il y a une chose que l'on fait tous systématiquement, consciemment ou inconsciemment, c'est de refaire le passé. Ah, il fallait pas. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est vrai que tu aurais mieux fait de te taire, pardon, ça c'est clair. Ah, il fallait pas. Ah, si j'avais su. Ah, si nous avions. Ah, on aurait dû. Et vous savez, il y a des chrétiens, c'est toujours les spécialistes des regrets. Ah, si on... Mais le regret et la repentance sont deux choses différentes. Le regret ne change rien, il ne résout rien. Et puis, c'est refaire le passé. Et puis, avec des commandes et pourquoi. L'ange de l'Éternel vient, il interpelle Gédéon. Josué aussi, il interpelle Gédéon. L'ange de l'Éternel interpelle Gédéon. Salut, vaillant héros. Ah, Seigneur, pourquoi ces choses, puisque l'Éternel est avec nous? Comment ça se fait que ces choses nous sont arrivées? Et comment ça se fait que... Et quand Josué, après sa défaite d'Aï, parce que Josué avait cessé d'écouter Dieu quand il était en Josué 5, quand il était au pied de l'ange de l'Éternel, quand il mordait la poussière, mais quand il est devenu un petit peu trop bien installé dans son leadership, et que là, il a écouté la voix de ses conseillers, et qu'il n'était plus dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, en d'autres termes, quand il est parti de Jéricho pour conquérir Aï, au lieu de retourner à Gilgal pour aiguiser son fer de hache, à ce moment-là, Aïe a été un gros échec, Josué chapitre 7. Et là, Josué dit, ah, mais pourquoi nous avoir fait, Seigneur? Pourquoi nous avoir fait passer le Jourdain? Tu vas demander au Seigneur, j'espère que personne ne dit ça dans son cœur ce matin. Que personne ne dit, mais qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Pourquoi je suis devenu chrétien? Puis au final, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que ça me rapporte? Vu les galères dans lesquelles je suis. Pourquoi nous avoir fait passer le Jourdain? Asaph, alors qu'il avait perdu de vue l'essentiel avec Dieu, psaume 73, qui finit par dire « Est-ce en vain, Seigneur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Seigneur, est-ce que c'est pas pour rien que je suis devenu chrétien, finalement? » C'est ça que ça veut dire. Et non, ce serviteur, il avait bien fait de se mettre à l'œuvre. La vision était bonne, la cause était noble, elle était juste, ils étaient dans le plan de Dieu. Ça ne sert à rien, mon frère, ma sœur. Peu importe ce que tu as raté, ça ne sert à rien de refaire le passé. Ça ne sert à rien de refaire ton passé. Ça ne sert à rien de faire des reproches à ton mari. Ça ne sert à rien de faire des reproches à ta femme. Ça ne produira rien du tout. Inutile de refaire le passé. Il faut que tu ailles rechercher ton fer de hache ou que tu recommences à l'aiguiser s'il est en train de s'émousser. Ou que tu ailles le chercher, que tu le reprennes si tu l'as perdu. Ne refais pas ton passé. Une autre chose que le serviteur n'a pas fait. Il ne s'est pas enfermé dans la nostalgie. Ah, je me souviens l'époque du frère Intel. Je me souviens de ci, de ça. Ah, c'était quand même mieux avant. Un jour, j'étais en voiture, j'étais en Normandie. Ma fille était adolescente. Et puis, je vais la chercher au collège. J'allais souvent chercher ma fille au collège. Parce que j'avais très peur qu'il y ait un philistin qui lui tourne autour et qui essaye de la séduire. Très souvent, j'allais chercher ma fille au collège. Je ne lui faisais pas la morale, ça ne sert à rien du tout, mais j'étais présent, pas écrasant, mais présent et bienveillant. Et souvent, j'allais chercher ma fille au collège, elle avait confiance et on se parlait. Puis des fois, elle m'ouvrait son cœur, même à 13, 14, 15, 16 ans, elle m'ouvrait son cœur et merci Seigneur pour cette bonne relation que j'avais avec elle. Puis elle avait son caractère, elle était très franche, quoi. Puis alors qu'on était en train de rentrer comme ça, d'un seul coup, elle me sort comme ça, « Papa, franchement, t'es vieux. » Je lui dis, mais ma chérie, enfin, je me doute que du haut de tes 15-16 ans, mes 40 paraissent énormes, j'ai presque trois fois ton âge. Je lui dis, mais ma chérie, 40 ans, tu sais, j'ai encore plein, je lui explique, etc. Je lui dis, elle me dit, non, papa, t'es pas vieux parce que t'as 40 ans. T'es vieux parce que t'écoutes nostalgie. J'étais en train de conduire, j'ai regardé le truc. Il y avait marqué, puis à un moment, ça a fait « Nostalgie ». J'ai coupé « Nostalgie ». Et à partir de quel moment, à partir de quand je m'étais branché sur Radio Nostalgie, j'écoutais des vieux trucs du passé, et à partir de quel moment j'avais commencé à me dire « Ah, ça, c'était une autre époque. Ah, ben ça, au moins, ça, c'était de la musique. » Impossible de me rappeler. Mais il y avait un jour où lentement mais sûrement je m'étais connecté à Radio Nostalgie et j'étais toujours dessus et j'étais toujours en train. Maintenant je vais vous dire franchement, j'écoute plus la radio, ça me saoule, j'écoute plus rien du tout. Jamais, plus de radio. Mais il y a trop de bêtises dans les radios. Mais à cette époque-là, j'avais écouté Nostalgie, j'étais content. C'est ma fille qui m'a rappelé alors, elle m'a dit papa, la vieillerie, c'est pas l'âge. La vieillerie, c'est quand tu es branché sur Nostalgie. Et là, ça ne va pas chez toi. Oh, je dis, ok, ma chérie, j'ai compris, d'accord. Ah, c'était autre chose, ça marchait mieux avant. Je vous parlais de Gédéon, il y a même des chrétiens. Ils arrivent à être nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Il faut le faire, ça, quand même. Hein. Ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Deuxième réflexion de Gédéon, mais où sont les prodiges dont nos pères nous parlaient? Ben oui. On va même devenir nostalgique de ce qu'on nous a raconté. Et on va chercher dans le passé, au lieu, comme on l'a entendu, de se tourner, de chercher vers l'avenir, vers un renouvellement. Où sont les prodiges? Ce ne sont pas les bonnes questions. Dieu n'y répond pas. Vous regardez bien dans la parole, il y a des tas de questions que des hommes ont posées à Dieu. Dieu n'a jamais répondu à ces questions. Dieu ne répond pas à toutes nos questions. Regardez bien. Par contre, est-ce que vous avez déjà remarqué le nombre de fois où Dieu nous pose des questions à nous dans sa parole? Adam, où en es-tu en ce moment? Ah mais Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Non. Adam, où es-tu toi? Où es-tu? Élie, qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Ah, mais j'ai déployé mon zèle, ils m'ont abandonné, je suis resté moi, seul. Non, Élie, arrête. Qu'est-ce que tu fais dans cette caverne? Je ne t'ai pas appelé à ça. Les disciples dans la barque, qui cherchent à écouper l'eau. Jésus se repose, il voudrait leur apprendre quelque chose. Mais c'est plus fort qu'eux, ils s'agitent, c'est des agités les disciples. On est tous des agités, on est tous des maniaques du contrôle. Jusqu'au moment où on commence à rentrer dans des dimensions de paix par l'esprit, mais tant que ce n'est pas fait, on est des chrétiens agités. On est des disciples agités, maniaques du contrôle. Et le Seigneur leur dit, mais où est donc votre foi dans tout ça? Elle est où votre foi? Ce n'est pas des reproches, ce sont des questions qui nous amènent à faire un bilan, à faire le point, à rentrer en nous-mêmes, à réfléchir pour trouver l'issue, pour trouver la voie. Non, il a parfait le passé, non, il ne s'est pas enfermé dans la nostalgie. Une autre chose qu'il n'a pas faite et qui nous tente, nous, bien souvent, et peut-être quelqu'un ce matin, c'est d'abandonner le peu qui te reste. On abandonne le peu de vie d'église qui nous reste. Peut-être tu es tenté d'abandonner le peu de prière qu'il reste dans ta vie, le peu de communion avec Dieu qu'il te reste. Abandonner le peu qu'il te reste, parce que le diable, l'ennemi de ton âme est là et il attire ton attention sur tes mains pleines de cloques, sur tes blessures, sur les dizaines et les dizaines et les dizaines de coups que tu as mis de tout ton cœur dans ta bonne volonté, parce que tu étais sincère et ça, on ne pourra jamais te l'enlever, parce que tu es un frère sincère, parce que tu es une sœur de bonne volonté, parce que ça, on ne pourra jamais te le reprocher. Et combien de fois tu as, tu t'es même pas aperçu que tu avais perdu l'essentiel, et l'ennemi, lui, il te dit, regarde comme tu as travaillé, regarde comme tu souffres, regarde tes blessures, à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Donc, le peu qui te reste, tu es tenté de le laisser tomber. Tu vois, ça ne marche pas, tu n'as pas de résultat. Oui, mais moi j'ai donné, j'ai travaillé, je suis blessé, je n'ai pas eu la reconnaissance, j'ai pas eu. Et le diable, il est là, il te dit, ben oui, tu as bien raison, il ne te mérite pas. Ben vas-y, laisse-les tomber. Mais le serviteur n'a pas fait ça. Puis, il y a une autre chose que le serviteur n'a pas fait. Ben, il ne s'est pas entêté. Et il n'a pas continué à faire comme si de rien n'était. Le geste sans le fond, ça s'appelle la tradition. On continue à faire comme, ça s'appelle de la religiosité. Et ça, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas entêté. Il n'a pas fait semblant. Il ne s'est pas dit qu'en donnant peut-être deux fois plus de coups de manche, il aurait plus de résultats. Puis après, il va se dire, mais peut-être que je devrais donner quatre fois plus de coups de manche. Et puis peut-être huit fois plus, dix fois plus. Et non, c'est de l'entêtement, ça ne produit strictement rien. Continuer le geste, même accélérer la cadence, quand le faire n'est plus là, c'est de la folie, c'est de la tradition, c'est de la routine, c'est de l'habitude, c'est la forme sans le fond. Bien aimé, un des plus gros combats de la vie chrétienne, le plus gros combat de la vie chrétienne, c'est pas dans l'église. Le plus gros combat de la vie chrétienne, c'est même pas vis-à-vis des démons, ils sont liés, ils sont enchaînés. L'un des plus gros combats de la vie chrétienne, c'est de ne pas sombrer dans la routine. Parce que la routine, vous n'avez rien à faire pour tomber dans la routine. Regardez vos vies, on regarde nos vies. Tous les jours, vous vous levez. La preuve, vous êtes là. Plus ou moins à la même heure. Tous les jours, il faut petit déjeuner. Tous les jours, vous vous lavez. Enfin, j'espère. Tous les jours, vous allez emmener vos enfants à l'école. Tous les jours, vous allez au travail. Tous les jours, vous comptez vos heures. Tous les jours, vous avez vos collègues sur le dos. Tous les jours, vous cherchez un moment avec Dieu. Tous les jours, il faut manger. Tous les jours, vous avez votre épouse. Tous les jours, vous avez. Tous les jours, vous avez. Tous les jours, vous rentrez. Tous les jours. Et en réalité, inconsciemment, notre vie entière est remplie d'automatismes, de choses qu'on peut faire en pilote automatique sans réfléchir. Et ça, bien aimé, on n'a rien à faire pour tourner dans la routine. Même dans une routine évangélique, pardonnez-moi l'expression, on n'a rien à faire pour tomber dans la routine évangélique. Toute notre vie est jalonnée d'éléments qui font que, de toute façon, on peut tout faire en mode pilote automatique, de la maison au travail, du travail aux courses, des courses au collège et du collège à la maison. C'est toujours les mêmes parcours, ce sont les mêmes choses. On n'a rien à faire pour tomber dans la routine. C'est naturel. Par contre, on a un combat à mener pour ne pas céder à l'esprit de la routine, pour rester vigilant, pour garder le focus sur l'essentiel, parce que conscient que la routine, ça tue. Et puis j'insiste, il y a encore autre chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas accusé les autres. Parce que ce qui est facile, quand on a perdu l'essentiel, « Ah ouais, mais de toute façon, si l'Église était différente, eh ben, ça marcherait mieux. » Oui, mais de toute façon, il faut bien reconnaître que ma femme, mon mari, ce que vous voulez, mon fils, ma fille, peu importe. Ah franchement, il est dur. Hein. Est-ce que c'est le tronc qui est trop dur ou est-ce que c'est ton fer de hache qui n'est pas bien aiguisé ? On ne va pas faire une dissertation là-dessus, mais... Ah, c'est toujours là. Ah, puis vous savez, frère, vous savez, hein, moi, quand je suis arrivé en Provence, quand je suis arrivé à Manosque, les Manosquins, ils m'ont dit, vous savez, frère, hein, à Manosque, les gens, ils sont durs. Hein. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais arrivé en Normandie, t'as tout compris, les Normands, ils m'avaient dit, vous savez, frère, le Seigneur vous appelle, hein, on est d'accord, merci d'être venu, tant mieux que le Seigneur vous ait appelé, mais il faut que vous sachiez, frère, hein, vous avez les Normands, hein. Ils sont durs. Oh, je vais en pastoral, il y a un pasteur, il est en Bretagne. Il me dit, oh Steph, j'en peux plus, tu sais. Je dis, oh, tu vas me dire que les Bretons, ils sont durs. Il me dit, comment tu sais ? Oh, je dis, ben, je pense que... Puis j'étais en Alsace quand j'étais jeune. Alors, les Alsaciens... Puis j'étais en région parisienne. Oh, les Parisiens, métro, boulot, dodo, machin, ils sont... Il n'y a rien qui les intéresse. Est-ce que c'est le bois qui est trop dur ? C'est toujours le monde qui est trop dur ? C'est la nuit qui est trop épaisse ? Est-ce que c'est... C'est la faute des circonstances ? Non. C'est le fer de hache. Et la bonne nouvelle, c'est que, autant pour toi, pour moi ce matin, que pour ce serviteur, ce fer de hache qui semblait désespérément perdu, parce que dans le marasme des circonstances, dans les eaux boueuses du Jourdain, le fer semblait désespérément perdu. Comment est-ce que je peux le récupérer ? Et là, Élisée lui a pas dit, t'inquiète pas, on va te chercher un autre fer de hache. Non. Je vais t'aider et tu vas faire ta part et tu vas retrouver ton fer de hache à toi. De la même façon que lorsque le peuple partait en vrille, pardonnez-moi l'expression, Jérémie 18, vous connaissez cette image du potier, et qu'il arrive comme parfois entre les mains du potier. Ce n'est pas la faute du potier, ce n'est pas la faute du tour, c'est la faute de l'argile, c'est nous. Parce que cette argile ne s'est pas laissée, il n'était pas malléable entre les mains du Seigneur, et l'argile a raté. Mais Dieu, dans sa grâce, ne met pas l'argile à la poubelle pour prendre une autre masse d'argile. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est qu'il reprend la même masse d'argile. Amen. C'est qu'il veut te reprendre, toi, exactement, là où tu en étais, et que ce qui avait été perdu par négligence, il veut absolument te le rendre. Non, il n'y aura pas un autre fer de hache. Il veut que tu reprennes ce que tu as abandonné. Comment ça se déclenche ? Ça se déclenche par quelqu'un qui dit... Il n'y aura pas de nostalgie, je ne vais pas refaire mon passé. Non, je refuse d'abandonner. Non, je refuse d'accuser les autres. Non, je refuse de m'entêter. Si le fer n'est pas aiguisé, si je ne suis pas efficace, ce n'est pas la faute de l'Église, c'est la faute de Stéphane Brion. C'est ma faute. Point. C'est ma responsabilité. C'est mon fer de hache dans l'intimité avec Dieu. Donc, puisqu'il a compris qu'il regarde en lui-même, il a une démarche simple, toute simple, mais humble. Il reconnaît. C'est la démarche d'un cœur repentant. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. J'ai perdu le fer. Toute restauration, toute guérison intérieure, toute reprise de communion avec Dieu, toute reprise d'efficacité, tout chemin de piété commence ou recommence toujours par cette prise de conscience et cette simple confession de dire « Seigneur, oui, c'est moi. J'ai abandonné, j'ai perdu l'essentiel. » C'est un cœur vrai. Et puis, En même temps que ce cœur vrai, c'est très simple, ça peut aller très vite. Tu n'as pas besoin d'y passer 6 mois. En même temps que ce cœur vrai, il va dire « Ah, mais il était emprunté. » Élisée, Seigneur, j'ai perdu l'essentiel. Ce fer de hache, il était emprunté. Ça veut dire quoi ? Ben évidemment qu'il était emprunté, parce qu'il n'en est pas propriétaire. Tu n'es pas propriétaire de ta communion avec Dieu. Tu n'es pas propriétaire, arrête de rêver, tu n'es pas propriétaire de ta femme. Avant ta femme, qu'elle soit ta femme, n'oublie pas que c'est la fille du roi. N'oublie pas que tes enfants, mes enfants, n'oublie pas qu'avant d'être tes enfants, ce sont les cadeaux que Dieu dans sa grâce t'a confiés. Et n'oublie pas que tout ça c'est emprunté, ça veut dire quoi ? Mais il a reconnu, tu reconnais, je reconnais. C'est la grâce de Dieu qui me les a confiés. Ils étaient empruntés, c'est la grâce de Dieu et c'est la même grâce qui me l'avait donné, qui me l'avait plutôt confié, c'est la même grâce qui va me le confier tout à nouveau. Et c'était une façon pour lui de dire, mais Seigneur, mais je reconnais que je suis propriétaire de rien, mais Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est à nouveau ta grâce. Oui, ce fer, il était emprunté, je l'ai perdu, il était emprunté, je le reconnais, je m'en repens, je veux changer et je veux que tu me ramènes, Seigneur, c'est essentiel. Et là, chacun doit faire sa part. Parce que si tu penses que la communion avec Dieu, l'efficacité, l'onction, la fraîcheur, la vie, l'élan, si tu crois que ça va tomber par un petit coup d'imposition des mains tout à l'heure, j'imposerai les mains à personne d'ailleurs, ou si tu crois que ça va tomber tout cuit comme par magie demain matin au réveil, non mon frère, non ma sœur. Ça ne tombera pas du ciel comme par enchantement. Ce que la grâce de Dieu t'avait confié, oui, c'est cette même grâce qui veut te le redonner, mais le Seigneur va toujours faire la part d'impossible. Élisée, de la part du Seigneur, a fait la part d'impossible pour le serviteur, pour toi, et le serviteur a fait sa part de possible. J'ai perdu le fer. Élisée lui pose la question comme si le Seigneur ne le savait pas. J'ai perdu le fer. Où est-il tombé ? Ça peut faire. Il est dans la boue du Jourdain. Là. Montre-moi. Où est-ce qu'il est tombé ? Et là, on n'aime pas, mais il faut commencer à réfléchir. Ah, ça y est, la dernière fois que je l'ai vu réellement, il était là. Ok. Mon bien-aimé, ton fer de hache, où est-ce qu'il est tombé ? Ça signifie, réfléchis, à quel moment est-ce que tu as commencé ? Quel a été peut-être l'élément ? La circonstance, le conflit, le non-pardon, une blessure, une injustice, une maladie. Quel a été le point de départ qui a fait que tu as commencé à descendre ? Et c'est là qu'il faut commencer à réfléchir. On ne refait pas le passé, mais dire oui Seigneur, cet événement-là, j'ai refusé de pardonner, je me suis endurci, et là j'ai commencé à dégringoler. Ah Seigneur, là, il y a eu cette maladie, là il y a eu ce coup dur, là, et là, intérieurement, ah, j'ai commencé à baisser dans la foi. Et à partir du moment où ce moment a été identifié, Élisée fait quelque chose de très simple. Il prend un bois et il va le jeter pas n'importe où dans le Jourdain. Il va le jeter exactement là où le serviteur lui a montré. C'est à ce point-là, à ce moment du parcours de ma vie que j'ai commencé à... Élisée prend le bois, il dit, je vais jeter le bois exactement ici. Et ce bois, mes bien-aimés, nous parle de la croix. exactement comme dans Exode 15, quand le peuple était à Mara, parce que la véritable problématique, ce n'était pas que l'eau de Mara n'était pas buvable sur l'instant, parce qu'il y a des tas de choses dans la vie, mes frères et sœurs, et dans l'Église, qui ne sont pas buvables, on en est conscient. Mais le problème n'était pas l'amertume des eaux, le problème était l'amertume qui était entrée dans le cœur du peuple. Et quand Moïse jette le bois dans l'eau, c'était une façon de montrer que la seule façon d'enlever l'amertume de nos cœurs, pour ce serviteur, la seule façon d'enlever cette amertume, ces tentatives de regret, ces tentatives d'enfermement, de nostalgie, d'abandon, la seule façon de retrouver cet essentiel. Où est-ce que tu retrouves l'essentiel, mon bien-aimé ? Ben, tu le retrouves toujours à la croix. Parce que tu as été amené à l'existence, tu as trouvé la vie dans la mort de Jésus et sa résurrection, tu as trouvé la vie dans la croix. C'est là que tu es né, c'est là qu'il faut revenir et c'est là que tu reviendras sans cesse. Et ce bois, c'est une image de la croix, c'est l'expression aussi ultime de la grâce de Dieu qui te pardonne. Élisée était en train de dire, je ne te fais pas de reproches. Dieu ne te fait pas de reproches. Dieu est le même envers toi. Il a la même grâce. Il a le même pardon. Il veut te redonner l'essentiel perdu. Et cette croix, c'est ton essentiel. C'est l'origine de ta vie. C'est ta victoire. C'était ta victoire hier. Ce sera ta victoire aujourd'hui, si tu le veux. On va prier. Et ce sera ta victoire chaque fois que ce sera nécessaire. Et quand il est revenu à l'essentiel à la croix, le miracle a eu lieu et ce qui était perdu a été retrouvé. Le fer a surnagé. Et là, je vous pose une question. Qui a récupéré le fer a surnagé. Qui a été chercher le fer? Qui a récupéré le fer? Le serviteur, pas Élisée. Dieu a fait, au travers d'Élisée, il a fait la part d'impossible dans la grâce. Et le serviteur, après avoir confessé, reconnu, le miracle a eu lieu, et c'est le serviteur, il est écrit, il, le serviteur, il étendit la main et il a été recherché ce qu'il avait perdu. C'est le serviteur qui l'a repris et c'est comme ça qu'il est devenu acteur de sa propre restauration. Acteur de son propre miracle, acteur dans une certaine mesure de sa propre résurrection. Il est devenu acteur de cela. Il y a une seule question qui se pose pour finir. Et toi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu veux? Où est ton fer de hache? Est-ce que tu veux le récupérer? Parce que si tu le veux, le Seigneur, lui, il fait le miracle, il le fait pour toi. Et tu repars de ce lieu et tu repars différent, avec des priorités différentes. J'ai assez parlé pour ce matin, on va se recueillir. Et que le Seigneur vous fasse grâce les uns et les autres. J'aimerais que on ait un moment de recueillement, s'il vous plaît, bien-aimé. Je vais imposer les mains à personne, parce que ce n'est pas ce dont on a besoin dans ce genre de cas. Mais je vais faire un appel. Un appel auquel je ne vous demande pas de répondre sous le coup d'une émotion. Mais vraiment en rentrant en vous-même, en faisant le point avec Dieu, sérieusement, objectivement, n'aie pas peur de regarder ce que tu as perdu, n'aie pas peur de regarder tes échecs, tes inefficacités. De toute façon, le Seigneur le savait avant que ça n'arrive et il ne te reproche rien. Le Seigneur n'est pas là pour t'accabler. Ce message n'est pas là pour accabler qui que ce soit. Ce message te montre une voie de retour, te montre une issue de sortie, te montre une bénédiction avec laquelle tu repars là, maintenant, tout de suite, tout à l'heure. Et que demain, tu reprennes cette vie que tu avais avec Dieu. Alors fais le point en toi-même.